Bonjour, Raymond Richard au micro. Et bien pour cette émission, histoire d'en savoir plus, Monsieur Ikyusen est venu à Dreux, invité par l'association Alif, faire une conférence dans le cadre du Ramadan. Je le remercie de prendre du temps pour répondre aux questions de Radio Grand Ciel. Dans votre conférence, vous avez évoqué le fait que les rites, les règles, le religieux, soient subordonnés à la révérence envers Dieu et l'amour des autres. Et je me suis dit, tiens, finalement, nous avons peut-être des points à connaître chez d'autres.
Tout à fait, je vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer sur votre radio. Effectivement, l'islam doit être comprise comme une religion qui a pour but et objectif le bien-être et le bonheur de l'être humain, sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, les rites ne sont que des moyens pour atteindre des objectifs. Dieu étant au-dessus des contingences matérielles et humaines, il n'a pas besoin de notre adoration. D'ailleurs, il est dit dans une des paroles de notre prophète béni que si toutes les créatures étaient des croyantes pieuses soumises à Dieu, ça n'augmenterait rien à la puissance, à la magnificence, à la beauté de Dieu. Et si tout le monde était impie et désobéissait à Dieu, ça diminuerait rien à sa grandeur, à sa beauté. En fait, la religion n'est pas une prison ni un fardeau. Elle est une libération de l'homme pour se soustraire de la domination de l'homme par l'homme ou de la domination de l'homme par ses passions, par son ignorance, pour le mener vers quoi? Pour le mener vers la réussite sur terre et dans l'au-delà. Et c'est quoi la réussite si ce n'est que justement d'être libre? Et pour être libre, il faut quoi? Ben, il faut penser, il faut réfléchir. Et la meilleure façon de penser et de réfléchir pour nous croyants, c'est de nous faire aider par Dieu. Et Dieu nous aide à travers quoi? À travers la révélation. La révélation a pour objectif de nous guider sur le chemin du bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et toutes les règles qui sont comprises dans cette révélation sont des garde-fous pour nous empêcher de quoi? De dévier, de se dévoyer. La religion n'est pas une prison, c'est une libération à condition que nous soyons épris d'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et il veut justement nous libérer de notre faiblesse, de nos fautes, de nos péchés. Et la meilleure façon, c'est de se soumettre à lui. Car on ne sera libre que si on est soumis à Dieu. Parce que si on ne veut pas être soumis à Dieu, on sera soumis à autre chose. On le voit très bien aujourd'hui dans notre société de consommation. On est soumis à l'argent, on est soumis à des plaisirs futiles. On est même tombé très bas. Il y a certaines idéologies aujourd'hui à la mode qui font de l'être humain un animal, hein, qui ne pense plus, qui ne réfléchit plus. Donc, nous libérer, c'est nous soumettre à Dieu. Mais c'est une soumission dans la réflexion, dans l'intelligence, dans l'amour, dans le respect. Dans le respect de quoi? Ben dans le respect des limites que Dieu nous a posées. Donc, le rite a pour objectif de nous élever spirituellement pour nous libérer. De quoi? De l'emprise de la matière.
Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, on a l'impression que la religion musulmane est très ritualisée. Et là, vous dites aux musulmans que le rite, il faut le laisser là où il est.
Tout à fait. Il faut le laisser là où il est, il faut lui donner sa place et son importance, mais ne pas en faire une fin. Je vais vous donner des exemples. Le rite le plus important en islam, c'est l'accomplissement des prières rituelles quotidiennes, qui sont au nombre de 5. Le but de ces prières, comme le Coran le dit, c'est quoi? C'est de créer chez l'être humain un réflexe pour qu'il n'oublie pas Dieu, pour se rappeler Dieu, parce qu'on a tendance à l'oublier avec le métro, boulot, dodo. On est pris par les obligations de la vie et par les distractions. Donc la prière est une coupure qui permet à l'être humain de s'extraire des contingences matérielles pour se ressourcer spirituellement en faisant son mea culpa, car la prière c'est aussi un dialogue entre la créature et le créateur. Donc c'est beau dans le sens où on fait une introspection, on se remet en question, on charge ses batteries d'amour de Dieu pour sortir de cette prière grandie spirituellement, pour avoir une éthique et une morale à l'extérieur de cette caverne dans laquelle on s'est recueilli. D'ailleurs, le Coran le dit très bien, une prière bien accomplie doit dissuader le croyant de la turpitude et du mal. En fait, ce sont des va-et-vient que le croyant fait.
Donc la prière est là pour maintenir la relation avec Dieu.
Exactement, pour renforcer notre relation avec les créatures de Dieu. Car celui qui s'est rapproché de Dieu se rapproche des créatures. Et celui qui s'est rapproché de Dieu et s'éloigne des créatures ne s'est pas rapproché de Dieu. Il doit refaire sa prière.
Alors, j'ai trouvé aussi intéressant la question du pardon. Le fait que le tort fait à l'autre, finalement, était pardonné par Dieu à condition qu'il y ait le pardon de l'autre.
C'est une très bonne interprétation et je vais l'expliquer de manière précise en rappelant que chez nous, il y a trois sortes de fautes de péché. Il y a une faute que nous faisons vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire je n'ai pas accompli mes prières, j'ai été insouciant dans mes obligations spirituelles verticales. Dieu est pardonneur, il suffit de reconnaître, d'être sincère et de repartir sur de bonnes résolutions. Deuxième type de faute, c'est une faute que je commets vis-à-vis de moi-même en tant que personne. Ouais. Je fume, je suis en train de détruire mon corps, alors que mon corps est un dépôt. Dieu me l'a remis, je dois en prendre soin et il doit repartir vers Dieu sans dégâts de ma part. C'est encore une faute. Je demandais à Dieu pardon et Dieu est pardonneur et je dois décider de ne plus recommencer. Jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique, c'est quand nous commettons des erreurs vis-à-vis des créatures de Dieu, que ce soit les êtres humains ou que ce soit le monde animal ou le monde végétal. Plus important, c'est l'humain. Toute personne qui commettra une exaction, une injustice envers son prochain, commet un grand péché. Et le grand péché, pour qu'il soit absolu, il faut quatre conditions. La première, c'est reconnaître, accepter, c'est déjà fondamental et important. Deuxièmement, c'est demander pardon à Dieu, puisque en faisant du mal à l'autre, on a d'abord désobéi à Dieu. Troisièmement, c'est décider, prendre de bonnes résolutions, de ne plus recommencer. Et quatrièmement, condition sine qua non pour que les trois premières soient acceptées, c'est de faire le pas vers la personne envers qui nous avons commis cette erreur et lui demander pardon. Si on a dit du mal de quelqu'un, on lui demande pardon et on va réparer en disant du bien de lui, en rachetant sa faute. Si c'est matériel, je suis désolé, je vous ai volé votre argent, je dois vous le rendre, coûte que coûte. Donc, il n'y a pas de pardon divin si la personne qui a subi les torts n'est pas dédommagée par celui qui a commis ce tort. C'est fondamental dans notre religion. Pourquoi ? Parce que Dieu est pardonneur, Dieu est miséricordieux. L'être humain a tendance à demander justice, voire même à être vengeur. C'est pour cela que le Coran nous dit « Réglez vos comptes sur terre ». Comme ça, vous arrivez devant moi, il ne restera plus que les péchés entre vous et moi, et ça, c'est facile à résoudre.
Oui, donc en fait, vous avez évoqué les obligations rituelles, la prière, un certain nombre de choses. Mmh. Effectivement, vous avez parlé aussi du pèlerinage, puisque vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est le lieu où se trouvent des lieux saints de l'islam, mais qu'il y avait aussi ces obligations éthiques et morales. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant. On retrouve là quelque chose qui peut être commun à beaucoup de religions.
Tout à fait. C'est commun de fait, puisque l'islam n'est qu'un maillon parmi cette longue chaîne
de religions
monothéistes qui ont été révélées à des moments, à des lieux, à des communautés bien précises. Et d'ailleurs, les fondamentaux, qu'ils soient dogmatiques, qu'ils soient rituels ou qu'ils soient moraux, nous les retrouvons dans les religions monothéistes. Hein. La prière existe chez les chrétiens, le jeûne existe chez les chrétiens, le pèlerinage existe chez les chrétiens, l'aumône existe chez les chrétiens, et la croyance, elle est presque identique. Donc, les piliers de la croyance et du rituel et de l'éthique et de la morale sont les mêmes dans les religions monothéistes, avec quelques ajustements. Mais c'est minime. Le fond, le tronc commun est le même. C'est ce qui fait justement cette continuité. Oui, en islam, on ne peut pas séparer, il ne peut pas y avoir de dichotomie, on ne peut pas être schizophrène. C'est-à-dire, on ne peut pas être quelqu'un qui prétend se rapprocher de Dieu à travers du rituel, spirituel et intime, et s'éloigner des créatures de Dieu. C'est impossible. On a des textes qui sont clairs. Par exemple, on est en pleine période de Ramadan. Le prophète béni dit « Celui qui passe sa journée à dire du mal des gens, Dieu n'a que faire de son jeûne et de ses prières nocturnes. » Cette personne, en fait, son jeûne n'est pas accepté, puisque le but du jeûne, c'est de purifier l'individu, c'est de l'élever. L'élever dans quoi ? Dans son éthique et sa morale. Le prophète dit aussi « Combien de personnes font la prière et la prière les maudit ?» C'est-à-dire, leur prière n'est pas acceptée. Pourquoi n'est pas acceptée ? Parce que la personne, en fait, se joue de la religion. Elle a un comportement hypocrite. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu aux dépens des créatures de Dieu. L'intimité spirituelle a son pendant qui est la dimension éthique et morale. Par exemple, le prophète dit que parmi les choses les plus lourdes dans la balance des actions le jour de la résurrection, c'est la foi et le bon comportement. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, à trois reprises, c'est-à-dire c'est pas un croyant sincère, c'est pas un bon croyant, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Vous voyez que la foi est liée à l'éthique et à la morale. Il n'est pas croyant, dit-il dans une autre parole, celui qui dort le ventre plein, il repue, il a bien mangé, alors que son voisin à ses côtés a faim et il le sait. Ce qui veut dire que, en fait,
il y a une exigence de solidarité qui prime aussi ou qui va ensemble.
Mais bien sûr, la preuve, je suis en train d'accomplir ma prière qui me demande une concentration. Mais s'il y a une urgence et une obligation, j'abandonne ma prière pour sauver un être humain. Dieu nous éduque de deux manières. Il nous dit « Rapprochez-vous de moi dans cette spiritualité verticale et rapprochez-vous de moi vous rapprochant des créatures. » Et l'un ne peut pas exister sans l'autre pour nous.
Alors effectivement, la communauté musulmane se fonde sur à la fois donc c'est les prières, les rites qui sont subordonnés à cette exigence de comportement en adéquation avec les commandements de Dieu.
Tout à fait.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Et alors vous avez beaucoup insisté sur le fait que ces comportements doivent amener la réalisation de la communauté. Et c'est vrai qu'on est très individualiste et on se méfie, on stigmatise le communautarisme. Comment peut-on justement prêcher la communauté alors que, de fait, il y a cette solidarité entre les croyants, bien sûr.
Tout à fait. Donc,
alors, parlons de la communauté.
Reconnaissons d'abord, et je pense que tout le monde sera d'accord, que, restons franco-français, on va être chauvin, qu'il y a des communautés en France. On est tous des citoyens égaux. Hein, la loi est la même pour tout le monde. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais ça ne nous empêche pas de quoi ? Ben, de vivre en communauté. Pourquoi ? Parce que qui se ressemble, s'assemble. Donc, il y a la communauté des croyants, il y a la communauté chrétienne, la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté protestante. Mais il y a même la communauté, elle est toute récente, homosexuelle. D'accord ?
Mais c'est vrai. Oui,
et bien d'autres communautés. Bien sûr.
Ouais.
Allez, on va passer dans les professions. On a la communauté des cheminots, là, en ce moment. On les subit un peu, puisqu'ils revendiquent leurs droits. La communauté des agriculteurs, ouais, qui se battent. Donc, oui, dans toute société.
On a plusieurs communautés, en effet.
Exactement. On a plusieurs communautés qui vivent ensemble, qui se côtoient. Ils ont les mêmes aspirations, parfois, et parfois dans des aspirations qui sont plus particulières. Donc la communauté musulmane fait partie de ces nombreuses communautés. Le communautarisme, si c'est s'enfermer dans sa communauté et ne pas avoir de pont et de relation avec une autre communauté, ou tomber dans l'élitisme, la religion du peuple élu, hein, nous sommes supérieurs aux autres, hein, la race supérieure, et on aurait tous les droits et les autres, non, ça c'est un égarement manifeste. Le communautarisme qui signifierait l'enfermement aux dépens du vivre ensemble est à condamner. Chaque communauté a ses particularités et nous sommes tous français, donc une communauté française qui avons les mêmes aspirations, c'est de vivre ensemble dans la paix, dans le respect et nous battre ensemble pour que la France de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Et je pense que si tout le monde abordait la question de la communauté de cette manière, il y aurait moins de tensions, mais pour qu'il y ait moins de tensions, il faut qu'il y ait du dialogue. Le gros problème, à mon avis, c'est quoi ? C'est l'individualisme, l'égoïsme. On nous a morcelés, on nous a atomisés, en nous faisant croire que ce qui compte, ben, c'est son bien-être personnel. Si bien qu'aujourd'hui, on a un pan de notre société qui souffre. La solitude, c'est terrible. Moi, je le vois quand je visite des maisons de retraite, quand je rencontre des personnes âgées qui pleurent et qui souffrent.
Oui, pour les personnes âgées, c'est vraiment évident. Puis même pour ceux, oui. Je vois, pour ceux qui sont en retraite, finalement, la retraite, pouf.
On marginalise une partie de la population. Et le pire, c'est qu'on marginalise les gens. On ne serait pas ce qu'on est sans eux. Hein? On est bien d'accord qu'on est, nous, qui sommes plus jeunes, le fruit du sacrifice des plus âgés. Mais une fois qu'ils ont atteint un certain âge, on les range au placard, on les oublie, on les néglige. j'ai presque envie de dire, c'est un crime, ouais, qu'on commet aujourd'hui de manière inconsciente, mais ça va même plus loin. Même ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui s'individualisent. Moi, je le vois avec les femmes qui vivent seules, et on les appelle les mères-filles, les femmes qui se retrouvent seules, sans mari. C'est-à-dire des hommes qui ont une approche dans les relations avec les femmes purement charnelles. Tout ce qui l'intéresse dans la femme, c'est son corps. Une fois qu'il a eu son plaisir, il l'oublie. Ainsi, aujourd'hui, on a quoi ? Ben, on a des femmes qui vivent seules, des femmes qui se retrouvent avec un ou deux enfants, qui ne sont pas accompagnées, hein, qui n'ont personne à qui se confier, personne qui va les aimer sincèrement, qui va partager avec eux les difficultés de la vie, mais les bons moments. En fait, tout est devenu égoïste, individualiste. Et puis, la technologie, Internet, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Tout le monde est sur son portable. Ouais.
Oui, mais maintenant, il n'y a même plus la communauté des gens qui regardent la télévision ensemble, même si elle est
bête. Non.
On ne va pas pouvoir en parler le lendemain matin parce qu'on n'a pas vu le spectacle.
Tout
on regarde chacun son réseau d'informations. Et c'est grave dans la mesure
c'est
où...
C'est très grave. C'est l'individualisme, l'égoïsme et même ces relations qu'on appelle réseaux sociaux sont virtuelles. C'est pas réel. On s'accroche pas sincèrement à une personne parce qu'on a reçu un message et on lui renvoie. En fait, on a tué l'humain. On en a fait quoi ? On en a fait des robots. Donc, le vrai communautarisme aujourd'hui qui est en train de détruire notre société, c'est l'individualisme qui renferme la personne dans une communauté virtuelle qui a pour objectif de l'occuper, de le détourner de l'essentiel pour en faire un consommateur.
Je trouve intéressant là, consommateur, oui. Consommateur qui a comme Dieu la consommation.
Tout à fait.
Et alors justement, cette communauté musulmane, vous l'avez articulée sur l'histoire. J'ai été impressionnée parce qu'effectivement, vous avez repris le fil de l'histoire. Mais ça paraît difficile maintenant de retrouver une communauté musulmane qui aille de Tanger jusqu'à Constantinople et même jusqu'aux confins de l'Inde.
Effectivement, la communauté musulmane aujourd'hui est divisée, elle est morcelée, elle est dans un état même catastrophique. Hein. Quand vous voyez des pays voisins qui, encore un siècle, ne connaissaient pas de frontières, il n'y avait aucune différence. Aujourd'hui, ils sont dans une animosité sans précédent, ils se font la guerre. Les frontières sont fermées entre l'Algérie et le Maroc depuis des décennies. On en perd son latin, on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est évident qu'il y a l'ingérence du politique. Que ce soit au niveau local ou au niveau planétaire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la gérance des ressources minérales ? Parce que quelquefois, quand vous avez évoqué les frontières qui ont été établies au Proche-Orient, elles ont quand même été bien établies aussi en fonction des puits de pétrole.
Bien sûr, tout à fait. Ce sont des puits de pétrole en fonction aussi d'une stratégie qui est basée sur diviser pour mieux régner. Hein, on prend une région, on la divise selon des critères ethniques, d'accord ? Et on exacerbe ces différences ethniques et culturelles.
On exacerbe les différences pour monter les uns contre les autres.
C'est flagrant. Celui qui a fait un peu d'histoire moderne, il voit très bien que où est la logique dans la création du Liban. Le Liban, la Syrie, c'était la même chose. On a découpé un morceau de la Syrie, on l'a appelé Liban. Pourquoi ? On voit très bien les conséquences aujourd'hui. Les accords de Sykes-Picot, ils expliquent tout, ils disent tout. Et c'est malheureux. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des germes. Oui, c'est évident que la communauté musulmane, à la fin du 19e siècle, était dans la périgée. Elle a connu son apogée au Moyen-Âge, d'accord ?
Oui.
Et ensuite, comme toute civilisation, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, elles sont en dents de scie, les civilisations. Donc la communauté musulmane a périclité, à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau économique, au niveau politique, et au niveau aussi culturel. Donc, elle était prédisposée à quoi ? À subir cet éclatement. Donc, aujourd'hui, écoutez, ce qui reste de la communauté, c'est quoi ? C'est le pèlerinage. C'est aussi des actes forts de temps en temps, comme le ramadan. Tout le monde jeûne,
un
mois de ramadan.
Oui. On sent que les musulmans, même ceux qui finalement ne sont pas très croyants, le ramadan rétablit l'unité entre tous.
Exactement. Le ramadan est suivi par la majorité des musulmans, la prière par moins, d'accord ? Et puis il y a d'autres moments forts pendant l'année, des moments de tristesse, que ce soit quand il y a des défunts, la prière mortuaire à la mosquée, l'enterrement, des moments de joie, on est sollicité en tant que religieux, en tant qu'imam, pour célébrer les mariages après le mariage civil, les naissances. Donc on retrouve dans cette communauté musulmane des pratiques saisonnières.
Donc il y a cette communauté.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur la bande FM et sur Internet, en direct ou en podcast, grâce à notre site www.radiograndciel.fr.
Et vous parlez aussi d'une communauté qui serait loin des islams de l'extérieur pour prêcher pour un islam de France. Moi, j'aimerais bien que dans cette émission, vous reveniez là-dessus, parce que je crois que c'est très, très intéressant, cette perspective.
Moi, je crois sincèrement qu'il y a un islam qui est au-dessus des différentes communautés musulmanes, qui est au-dessus des sphères géographiques. C'est l'islam dans ses piliers, ses fondamentaux, que ce soit au niveau dogmatique, au niveau rituel, au niveau éthique et moral. Maintenant, je crois aussi qu'il y a des islams, empreints de quoi ? De culture locale. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, il y a tout un pan qui est laissé à la liberté de l'être humain. C'est ce qui permet son adaptabilité. L'islam a une capacité extraordinaire de s'adapter aux cultures, parce que l'islam épouse les cultures. Il fait juste un petit tri, un petit tamisage, ce qui est contraire dans certaines cultures aux principes fondamentaux de l'islam, donc est prohibé, interdit. Tout le reste est assimilé. L'islam assimile et intègre les cultures tout en respectant les différences culturelles. On le voit très bien, c'est évident que je suis français de culture, je suis musulman. Ben, si vous prenez un musulman d'Arabie, d'Afghanistan, de Philippines, vous verrez qu'on se ressemble et en même temps il y a une dissemblance. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas non plus le même mode de raisonnement.
Oui, puis il y a une inculturation qui fait que, effectivement,
dans le fond et la forme,
doit se faire
exactement.
Être intégré au pays, à la culture de ce pays.
C'est ça. C'est pour ça, en tant que musulmans français, nous n'acceptons pas et nous ne supportons pas les ingérences musulmanes extérieures. Regardez, on est en plein mois de Ramadan. C'est devenu malheureusement une habitude que l'on condamne. Certains pays musulmans, tels le Maroc ou l'Algérie, envoient des imams pour donner un coup de main aux imams dans les mosquées, parce que le mois de Ramadan, au niveau rituel, c'est assez intense. Et ces imams prennent la parole, tiennent des discours qui nous dérangent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils parlent à un public qu'ils ne connaissent pas, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et en plus, ils importent les problèmes de leurs pays respectifs, qui ne sont pas les nôtres. Et quand ils sont sollicités par les musulmans de France sur certaines problématiques, questions, ils apportent des réponses qui sont non adaptées. Donc, ça dérange, ça perturbe, c'est une ingérence que nous essayons de combattre de la meilleure façon. On a encore quelques années devant nous. Pourquoi ? Parce que on doit le respect aux anciens. La majorité des mosquées de France ont été construites par la première génération, donc nos parents qui sont venus d'ailleurs. Elles sont encore gérées, en majorité par nos parents. Nos parents sont attachés culturellement à leur pays d'origine,
à l'Algérie, au Maroc ou autre.
Donc, je pense qu'on en a encore pour une dizaine d'années, le temps que la passation de pouvoir se fasse dans la gestion du culte musulman, pour que le culte soit géré par des franco-français.
Mais j'ai eu l'impression quand même que cet islam-là, parce que finalement sur Adreux, nous avons des rencontres avec les musulmans depuis très longtemps, j'ai eu l'impression que l'islam des parents était beaucoup plus, je dirais, modéré. Alors, est-ce qu'on peut parler d'islam modéré ? Que l'islam de certains jeunes. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a un islam qui n'est pas ni celui du Maroc, ni celui de la Tunisie, mais celui de l'Arabie Saoudite.
Tout à fait.
Et quelquefois, je me dis, moi, chrétienne, je me sens plus proche du musulman algérien. Oui. Mais par contre, le bédouin du désert, ça, j'ai du mal.
Et moi aussi, en tant que Français, en tant que musulman, nous avons du mal avec cet islam, effectivement, islam de bédouin, ce qu'on appelle le salafisme wahhabite, qui est à l'origine de tous ces extrêmes que nous avons dans nos banlieues. Effectivement, la religion, l'islam de nos parents est un islam de paix et de vivre ensemble. Vous l'avez très bien vécu, vous l'avez très bien dit. Par contre, nous avons un pan de notre jeunesse qui se revendique d'un islam qui nous vient donc du bédouinisme, des jeunes qui sont pas stables, des jeunes qui ont des comptes à régler avec la France parce qu'ils pensent que leurs échecs socio-économiques et autres sont dus à la France, et ils se réfugient dans cette pratique, cette compréhension de l'islam salafiste qui est violente, qui prône le rejet de tout le monde et pas seulement du non-musulman. Vous serez étonné si vous saviez que ces jeunes musulmans banlieusards salafisés qui ont la haine de la France ont deux fois plus de haine envers les musulmans de France qui ne sont pas dans leur délire. Alors, personnellement, ils me considèrent comme un égaré qui égare les gens. Parce que je pense et je crois et je le prêche que l'islam, c'est une religion d'ouverture, de paix, de tolérance, d'amour, de fraternité, etc., etc. Pour eux, je suis un hérétique. Alors, moi, je pense que ces jeunes sont victimes de cet islam bédouin importé et qui a été financé à un moment donné. Donc aujourd'hui, ça va, il y a un changement, ils ont coupé les robinets. Donc qui a été financé et qui a créé tous ces monstres, parce que ce sont des monstres. Certains passent à l'acte, d'autres ne passent pas à l'acte. J'espère qu'ils ne passeront pas à l'acte et que nos services vont faire le nécessaire. Et ils sont une épine dans le pied de notre communauté. Donc on essaie d'apporter des solutions avec l'éducation populaire, avec l'enseignement. Alors, une bonne nouvelle, ils ont perdu du terrain. Ils ont perdu du terrain depuis les massacres de Charlie Hebdo, du Bataclan. L'État a réagi et a frappé fort. Deux, trois mosquées ont été fermées. C'était des fiefs de salafistes. Les perquisitions, les assignations à résidence, certaines expulsions. Il y a un mois, l'État a expulsé un imam d'une mosquée de Marseille qui sévit depuis 30 ans. Et je me pose la question, pourquoi depuis 30 ans, cet homme, exactement, avait pignon sur rue, alors que son discours depuis 30 ans est le même, voire même il est crescendo au niveau de la haine. Pourquoi? Ça, c'est une question, je voudrais bien avoir la réponse de la part des autorités. On les a identifiés, on les connaît, que ce soit dans le réel ou dans le virtuel, et on les laisse agir. Alors, certains m'ont dit, mais c'est pour...
Nous sommes dans un état laïque.
Ouais, mais là, il ne s'agit plus de laïcité, il s'agit de sécurité. Il s'agit même pas, il s'agit de l'avenir de la laïcité, du vivre ensemble. Toute personne qui prend la haine, le rejet de l'autre, doit être rappelée à l'ordre. On n'a pas à laisser, parce qu'on est en train de détruire ce que nos anciens ont construit.
Oui, c'est ça. C'est l'objectif, se vivre ensemble. Et je trouve intéressant, effectivement, que vous veniez ici et là pour rappeler l'importance de la communauté musulmane et d'une communauté qui est fondée sur cet islam de France et aussi sur la réflexion. Ça, je trouve que ça, vraiment, c'est
Et j'irai
essentiel.
Plus loin. Et moi, je vais beaucoup plus loin que ceux qui prônent l'islam de France. Moi, je suis dans l'autre camp. Moi, je veux un islam français, pas un islam de France. L'islam de France signifierait que l'islam est étranger et reste encore étrange dans certains volets. Non, l'islam doit être français, c'est-à-dire il doit être porté par des musulmans français, de culture française, de mentalité française. On ne veut pas d'un islam, on ne veut plus d'un islam, ça a été nécessaire pendant une période, qui est de passage. Un islam étranger et étrange. Et c'est à nous de le construire.
Un islam français et un islam qui s'ouvre aux autres religions. Et
tout à fait.
Merci d'être venu à Radio Grand Ciel, une radio chrétienne.
Je vous remercie pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse.
Parler de cet islam fraternel. Merci beaucoup. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.